On est béni de pouvoir se réunir, de pouvoir être ensemble, de pouvoir le louer, de pouvoir l'adorer. On est bien dans sa présence. Ce matin, je vais vous amener un message sur Ebenezer, mais des fois, on amène un message, mais quand on amène un message, le prédicateur qui est en avant, Dieu, il parle autant que quand vous êtes assis là. Hein? Dieu nous parle autant. C'est autant pour nous-mêmes, autant pour moi-même, que pour chacun de nous, la parole de Dieu. On en tire un bénéfice, chacun pour nous-mêmes. On va prier le Seigneur ce matin. Seigneur, c'est ta parole, Seigneur. Ta parole est la vérité, Seigneur. Seigneur, c'est un privilège d'amener ta parole, Seigneur. Je te prie ce matin que tu peux la déposer dans nos cœurs, Seigneur. Que tu peux en faire une œuvre, Seigneur. Afin qu'on grandisse dans tes voies, Seigneur. Afin qu'on puisse devenir plus fervent pour ta parole. Fervent pour ton œuvre. Fervent pour toi, Seigneur. Afin d'être des témoignages pour ta gloire, Seigneur. Afin de qu'on puisse aller de l'avant, changer des choses dans nos vies et dans la vie de ceux qui nous entourent, Seigneur. Pour te donner toute la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Le peuple d'Israël vivait souvent des hauts et des bas. Beaucoup de hauts et de bas. Je vais vous parler aujourd'hui d'un réveil dans le peuple d'Israël, mais ça se passe juste après les juges. Et dans la période des juges, on voit que le peuple d'Israël était souvent dans l'embarras. Là, ils criaient à Dieu. Dieu les délivrait, puis ils retombaient dans leurs mauvaises affaires. Criaient à Dieu. Dieu les délivrait, ils retombaient dans leurs mauvaises affaires. Criaient à Dieu. Puis souvent, dans nos vies, on n'est pas toujours top shape, spirituellement parlant. Il y a des fois que tout va bien, spirituellement parlant, mais il y a des fois que, spirituellement parlant aussi, c'est plus difficile. C'est plus difficile. On combat avec la chair, on combat avec le monde. On délaisse un peu, c'est un peu plus difficile. On a besoin aussi de la présence de Dieu. On a besoin de réveil spirituel de temps en temps dans nos propres vies. Régulièrement même, je dirais. Ce matin, je vais vous parler de Ebenezer. Ebenezer, ça veut dire pierre de secours. Puis on va regarder vraiment qu'est-ce que ça veut dire. On va lire juste quelques versets. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Ça, c'est 1 Samuel 4:1. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Au verset 10, ça dit, « Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël. 30 000 hommes de pied. » On va lire 1 Samuel 7. 20 années s'étaient écoulées. Alors, toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, « Assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils s'assemblèrent à Mitzpah, ils puisèrent de l'eau, et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins et ils dirent à Samuel, « Ne cesse pas de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait, l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins, les mit en déroute, ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'en dessous de Betcar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Sen, et il l'appela du nom d'Eben-Ézer, en disant, « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » C'est tout un passage, c'est un réveil du peuple d'Israël. Puis le nom de Ben-Ézer, c'est devenu symbolique pour le peuple d'Israël, c'est devenu symbolique, c'est devenu un lieu où Israël pouvait se souvenir que Dieu avait remporté pour eux une grande bataille. C'est devenu un lieu commémoratif pour eux, pour se souvenir que ce jour-là, l'Éternel les avait délivrés. S'en souvenir pour vraiment réaliser que jusque-là, l'Éternel les avait secourus. Puis c'est même devenu un lieu, Ebenezer, c'est devenu un lieu de victoire pour Israël, parce que ça revient régulièrement dans leur coutume. Puis aussi, il y a même un gars qui s'appelait Robert Garcet. En 1950, en Belgique, il a bâti lui-même une tour qu'il a appelée la Tour Ebenezer, justement en souvenir de cet événement-là qui avait eu lieu, de cette délivrance de Dieu qui avait eu lieu là. Il a bâti ça en Belgique, puis je vous ai mis une photo même. C'est une tour qui a 12 mètres carrés, parce que lui, il aimait beaucoup l'Apocalypse, puis il disait, parce que dans l'Apocalypse, la cité céleste, ça va avoir 12 000 stades de large. C'est sûr qu'il ne pouvait pas faire ça sur la terre, là. Hein? Ça fait que là, il avait juste 12 mètres carrés, puis vous voyez en haut, là, c'est les quatre êtres vivants qui sont dessus, là. Puis lui, en avant, il a mis une bannière qui disait, il n'y aura plus jamais la guerre. Bien, il n'y aura plus jamais la guerre quand on va être rendu dans Jérusalem céleste. Mais en attendant, il y aura toujours la guerre. Et dans chacun de nos vies, il y a la guerre. Tout de même la guerre spirituelle, la guerre entre l'esprit et la chair, entre l'esprit et le monde. Il y aura toujours cette guerre. Ici, on voit le contexte des versets que je vous ai lus, le contexte. Ça se passe en 1038 avant Jésus-Christ. En 1038 avant Jésus-Christ. Puis, il venait de sortir de la période des juges, où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Puis là, Samuel est devenu le prophète. Samuel priait pour le peuple, mais le peuple, ça faisait 20 ans qu'il était dans la défaite. 20 ans, l'Arche de l'Alliance avait été enlevée. Il avait perdu 34 000 hommes au combat. Puis depuis 20 ans, il vivait dans la défaite. Il n'avait pas juste eu 34 000 morts physiquement, mais il était mort aussi spirituellement. Il était mort spirituellement. Puis quand je lis ça, ça me fait penser. On a des réunions de famille des fois, puis on se réunit avec les membres de nos familles. Puis en fin de semaine, on se réunissait, puis je regarde dans notre famille même, puis il y en a que j'ai vu qui étaient au Seigneur dans le temps, puis ça louait Dieu avec nous autres dans l'Église. Ça adorait Dieu avec nous autres. Puis aujourd'hui, ils sont morts spirituellement. Ils sont morts spirituellement. Puis comment on en connaît chacun de nous? Ils sont morts spirituellement. Que ça fait 20 ans, 25 ans qu'ils sont dans la défaite, puis qu'on a connu, puis qu'on voit quotidiennement, régulièrement. Et je pense qu'on devrait faire comme Samuel, qui priait pour ses fils. Priait chaque jour pour ses fils, que Dieu touche, que Dieu fasse un œuvre. Et Ben-Ézer, certainement que c'est grâce aux prières de Samuel qu'il y a eu lieu ce miracle à Ben-Ézer, que Dieu a fait une œuvre, parce que Samuel intercédait pour le peuple. Et frères et sœurs, on devrait intercéder pour ceux qu'on a perdus, ceux que l'ennemi est venu chercher dans nos familles, dans nos foyers, qui sont morts spirituellement. La cause de ça, ça dit au verset 3, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Le cœur du peuple d'Israël était devenu un cœur divisé. Un cœur divisé. Oui, on sert Dieu, mais on a nos petits dieux aussi dedans. On sert Dieu, mais on aime aussi beaucoup le monde, on aime aussi beaucoup les choses de ce monde, on a d'autres petits dieux qu'on garde. Israël servait quand même Dieu, il allait servir Dieu, il allait quand même à toutes les réunions, mais il allait aussi aux réunions des Baals, il allait aux réunions des Astartés, il avait un cœur divisé. Dans Osée, le chapitre 10, le verset 2, ça dit « Leur cœur est partagé, ils vont en porter la peine. » Tôt ou tard, quand on a un cœur partagé, on va en porter la peine. Tôt ou tard. Puis Dieu me parle là-dessus de ne pas avoir un cœur partagé, mais de lui appartenir 100%. 100%. Parce que sinon, on en portera la peine. Mais par contre, ici, 20 ans de vivre dans la défaite, ça les a forcés à s'interroger. Des fois dans nos vies, lorsqu'il arrive un revers, lorsqu'il arrive une défaite, lorsqu'il arrive une perte, c'est le temps de s'interroger devant Dieu. C'est le temps de s'interroger. Et lorsqu'on s'interroge devant Dieu, ça va produire deux choses. Ça va produire soit une repentance ou un endurcissement. Soit ça va produire la repentance devant Dieu ou un endurcissement. Des fois, on voit des gens qu'on connaissait, qu'avant on leur parlait du Seigneur, puis ils étaient même avec nous. Puis aujourd'hui, ils sont tellement endurcis, ça devient les pires. Les pires pour te confronter, puis pour essayer de descendre Dieu. Pourquoi? Parce que ça leur produit deux choses. Quand il n'y a pas de repentance, ça devient un endurcissement. Un endurcissement. Mais Dieu voulait les ramener à lui. Puis dans Lamentation 3:33, ça dit, « Ce n'est pas de bon cœur que Dieu humilie les enfants des hommes. Ce n'est pas de bon cœur qu'il afflige les enfants des hommes. Ce n'est pas de bon cœur que Dieu fait passer des choses dans la vie. Ce n'est pas de bon cœur. C'est parce que Dieu veut souvent ramener ces gens à lui. Ramener les gens, ramener les cœurs des hommes vers lui. Ici, au verset 2, ça dit, « Alors toute la maison d'Israël poussait des gémissements vers l'Éternel. » Le mot, c'est « Naa ». Ça veut dire se lamenter et crier à haute voix devant Dieu. Une tristesse devant Dieu. Une tristesse devant Dieu. C'est le premier pas vers une repentance. Crier devant Dieu. « Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, on a besoin que tu viennes faire une œuvre. On a besoin de toi. » Crier devant Dieu. Crier devant Dieu, le premier pas d'une repentance. On pourrait certainement ici appliquer le verset de Paul dans 2 Corinthiens qui dit, j'aime beaucoup ce verset, quand Paul a dit aux Corinthiens, Paul avait discipliné les Corinthiens, puis il leur disait, je vous aime de tout mon cœur, puis comment est-ce qu'il leur parle de son amour, puis comment est-ce qu'il leur parle qu'il veut les aimer, mais il dit, si je vous ai discipliné, frères et sœurs, et dit, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne pas recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Ici, on voit que le peuple d'Israël avait une tristesse selon Dieu, une tristesse d'avoir offensé Dieu, une tristesse de s'être éloigné. Puis ici, on voit vraiment toutes les caractéristiques d'une vraie repentance devant Dieu. D'une vraie repentance devant Dieu. Puis c'est intéressant de voir ça parce que souvent, on a besoin de vivre la même chose dans nos vies. Peut-être pas à plus grande échelle, mais à plus petite échelle. On a besoin de revenir à lui de tout notre cœur de temps en temps. Puis j'ai sorti Quelques petits points. Au verset 2, ça dit... Ça ne dit pas ça. Moi, vous les lire d'abord pour le moment. Au verset 2, ça dit « Toute la maison poussait des cris devant l'Éternel. » Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire il y avait une contrition. Ça veut dire quoi, un cœur contrit, quand ça nous dit ça dans les psaumes? Le cœur contrit, ça veut dire une douleur vive et sincère d'avoir offensé Dieu. Une douleur vive et sincère d'avoir offensé Dieu. Deuxièmement, il y a eu une confession. Au verset 6, il dit « Nous avons péché contre l'Éternel. » Nous avons péché. Au verset 3 encore, il disait « Revenez à l'Éternel. » Devaient revenir à Dieu de tout leur cœur. Le verset 3 là-même, il disait « Ôtez du milieu de vous les dieux étrangers. » Ôtez du milieu de vous. Après ça, il y a eu une consécration. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Et ensuite de ça, Dieu, c'est là que le réveil arrive, lorsque ces étapes-là sont rencontrées. Tout un changement là, dans le peuple d'Israël qui a réalisé qu'il avait désobéi à Dieu, il a réalisé qu'il fallait qu'il enlève les idoles, qu'il fallait qu'ils reviennent à Dieu, qu'il fallait qu'ils le servent de tout leur cœur, et qui se consacre à lui. Ici, c'est un véritable réveil qu'on assiste ici. Je vous ai juste sorti le verset 4 à 6. Les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mitzpah, ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. On réalise vraiment qu'ici, c'est un réveil national, un réveil de tout le peuple, un réveil qui est pareil comme c'est écrit dans 2 Chroniques 7, 14, que souvent on cite, hein? « Si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'ils se détournent, ils ont tout fait ça, ils ont tout fait ça ici. Ils ont ôté les dieux, ils se sont repentis devant Dieu, ils ont cherché sa face. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Amen. Ils ont fait exactement les étapes de 2 Chroniques 7, 14. Et Dieu aussi les a exaucés. On va le voir dans la continuation de l'histoire. Dieu va les exaucer puissamment, puissamment. Ici, Samuel, il avait dit au verset... Ça m'a touché un peu, ça dit. Je prierai l'Éternel pour vous. Quand je lisais ça puis que je me préparais, on voit Samuel intercesseur pour le peuple. Samuel qui intercédait pour le peuple. Frères et sœurs, on a notre propre intercesseur, nous, qui est Jésus-Christ. On l'a, notre intercesseur, notre avocat auprès du Père. On a notre intercesseur. Et lorsqu'on est mal pris, on peut demander au Seigneur qui intercède pour nous, qui intercède pour nos besoins. J'ai marqué. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Amen. On l'a, notre intercesseur, frères et sœurs. On l'a, notre médiateur. Il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Amen. Et là, on va voir le combat maintenant. On va voir le combat, comment le combat a eu lieu. Le verset 7, ça dit, « Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah. » Ils ont appris qu'ils s'étaient assemblés. Les enfants d'Israël se sont assemblés à Mitzpah pour jeûner et prier. Mais les Philistins, eux autres, n'ont pas pensé qu'ils s'étaient assemblés pour jeûner et prier. Ils ont pensé qu'ils se sont assemblés à Mitzpah pour la guerre. Hein? Puis Mitzpah, c'est une place importante dans la parole de Dieu. Ça veut dire un lieu saint. Ils se sont assemblés dans le lieu saint. Un réveil, c'est quoi qui arrive lorsqu'il y a un réveil? On veut s'assembler devant le Seigneur. On veut s'assembler, on veut être devant lui. Puis Mitzpah, c'est un lieu saint. Puis Mitzpah avait des souvenirs aussi. Si on se souvient de l'histoire de Jacob et de Laban, on se souvient de Jacob et de Laban? Dans Genèse 31-49, Laban, il en a-tu fait manger à Jacob? Hein? Puis un moment donné, Jacob a voulu s'en aller. Puis là, Laban, il a dit, moi, le poursuis, puis moi, il fait du tort. Mais en route, Dieu a parlé à Laban, il dit, fais pas ça. Tu vas faire une alliance avec Jacob, puis tu vas le laisser aller. Puis, lorsqu'ils se sont rencontrés à Mitzpah, ils ont fait un petit monceau de terre, puis ils ont dit, je vais vous le dire, que l'Éternel, ils ont fait alliance, puis ils ont dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi quand nous nous séparerons l'un de l'autre. En voulant dire, on fait une alliance, puis on va être en paix, puis on va rester comme ça. OK? Puis, c'est une belle signification pour moi, le mot Mitzpah. Parce que quand j'étais plus jeune, moi et ma femme, on s'est occupé d'un club de jeunes. Ah, merci. Ça avance tout seul, des fois, c'est bon, ça. C'est une bonne signification, le mot Mitzpah, parce qu'on s'occupait d'un club de jeunes. Puis quand on terminait la rencontre, on appelait ça faire un Mitzpah. On se réunissait tout en rond, on amenait une petite exhortation, puis on finissait avec cette parole-là qui disait « Soyons en paix les uns et les autres lorsqu'on se sera quittés de vue. » Amen. C'était vraiment la bénédiction de Jacob avec Laban. Mais Mitzpah aussi, c'était pas juste un lieu saint. C'est un lieu stratégique aussi. Un lieu stratégique parce que c'était 500 pieds en haut de tout le territoire. Puis c'est pour ça que les Philistins ont pensé qu'ils s'étaient assemblés pour la guerre. Ça dit, les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah et les princes des Philistins montèrent contre Israël. Montèrent contre Israël. Mais on va voir ici que Dieu était déjà à l'œuvre. Dieu était déjà à l'œuvre pour les délivrer, parce que le peuple déjà avait revenu à lui de tout son cœur. Ça dit, Samuel prit un agneau de lait, il l'offrit tout entier à l'Holocauste à l'Éternel, et cria à l'Éternel, et l'Éternel l'exauça, pendant que Samuel offrait l'Holocauste. Pas après, pas plus tard, pendant les Philistins montaient, puis pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël, et l'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins, les mit en déroute et furent battus devant Israël. Amen. Ça faisait 20 ans qu'ils étaient en défaite, 20 ans qu'ils étaient morts spirituellement. Il y a eu un réveil et Dieu les a délivrés. Dieu les a délivrés. La victoire était à leur portée. La victoire était à leur portée. Pendant qu'ils offraient l'Holocauste. Puis moi, je lisais, quand je lisais, pendant que Samuel offrait l'Holocauste, moi, je voyais pas ces mots-là. Moi, je voyais les mots, pendant que Jésus-Christ s'est offert en sacrifice pour nous, on a été victorieux sur le péché. Amen. C'est ça que ça nous dit dans Hébreux 10. Étant dit que tout sacrificateur fait chaque jour le sacrifice et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Et on peut être victorieux plus que vainqueur. Amen. Après la victoire, Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen et l'appela du nom d'Ébénézer en disant, « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » La pierre de secours, et en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici. Pourquoi il n'a pas dit, il va nous secourir tout le temps, ou il va nous secourir dans le futur? C'est-tu parce que Samuel manquait de foi? Non. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. parce que Samuel voulait que le peuple d'Israël regarde vers le passé, où à chaque fois qu'il y avait eu besoin du Seigneur, à chaque fois, Dieu les avait délivrés. À chaque fois, c'était comme une pierre qui était là, qui leur montrait que Dieu était là, que Dieu les avait délivrés, et que jusqu'ici, Dieu était fidèle. Et que si eux continuaient à servir le Seigneur, Dieu serait encore fidèle et les délivrerait encore. Amen. Dieu avait toujours agi envers eux et pouvait avoir confiance en l'avenir. Et Ebenezer dans nos vies, c'est quoi ça nous parle, Ebenezer? Ça nous parle aussi de toutes les fois, souvenons-nous, frères et sœurs, de toutes les fois que Dieu agit dans nos vies depuis qu'on est au Seigneur, quand on a eu besoin de lui. Toutes les fois que Dieu a fait quelque chose et qu'il a été fidèle, qu'il nous a délivrés de telle chose, qu'il a rempli un besoin de telle chose, qu'il nous a aidés dans telle situation. Et nous aussi, aujourd'hui, on pourrait dire, et jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel est fidèle. Jusqu'ici, il est avec nous. Ça ressemble un petit peu, ce verset-là, un petit peu, ça ressemble au verset de Lamentation 3:20 qui dit, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent. » Chaque matin. Amen. C'est vraiment, Dieu a agi pour le peuple d'Israël. 20 ans d'opprobre, mais Dieu a fait un œuvre. Dieu a fait un œuvre. Et Dieu a agi. Ici, on voit dans cet épisode-là que Dieu a agi instantanément. Mais Dieu n'agit pas toujours de la même manière. Des fois, on se décourage parce que on voudrait que Dieu agisse des fois instantanément, mais des fois, ça prend du temps. On parle de Samuel qui était l'intercesseur pour le peuple ici, mais Anne, sa mère, qu'elle a attendu pendant des années et des années avant d'avoir un enfant, puis elle priait, elle pleurait devant l'Éternel, puis elle disait, si j'ai un enfant, je vais le donner à Dieu. Puis, ils ne nous disent pas dans la Bible combien de temps, mais selon les traditions un petit peu de ce temps-là, ça dit qu'elle aurait attendu comme 19 ans avant que Dieu lui fasse grâce, puis qu'elle ait Samuel. Des fois, ça prend du temps. D'autres fois, ça peut être comme les hasards de Dieu. Je lisais l'histoire dans 1 Roi 22, quand Josaphat, je vous ai parlé de Josaphat l'autre semaine, quand il est allé à la guerre avec Achab. Puis, Josaphat, il n'était pas supposé vraiment d'être là. Puis le roi Achab, lui, était tricheur pas mal, fait que il avait eu la parole qu'il mourrait s'il irait à la guerre. Fait qu'il s'est déguisé en soldat. Ça fait qu'il a fait accroître, puis fait que les troupes, quand ils ont vu Josaphat, tout le monde sont en allé là pour le tuer. Josaphat, il a crié, « Seigneur! » Il a sorti de là victorieux. Puis en s'en allant, les soldats, ils ont tiré une flèche au hasard. Au hasard. Puis ça a pogné le défaut de la cuirasse de Achab, puis il est mort. Tout un hasard de Dieu. Puis des fois, dans nos vies, il y a les hasards de Dieu. Hein, des fois, tu dis, « Hey, c'est arrivé par hasard. » Mais les hasards de Dieu sont souvent la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Mais des fois, ça passe par nous aussi. Ça passe par nous. On peut être le Ebenezer de quelqu'un. Dans 2 Samuel 10, je voyais Joab qui dit à son frère, il dit, « Si les Syriens nous attaquent, il dit, puis s'ils sont plus forts que moi, tu viendras me défendre. Puis s'ils t'attaquent, puis ils sont plus forts que toi, j'irai te défendre. » Amen. Des fois, les délivrances de Dieu peuvent passer par nous. Dieu peut nous utiliser. Paul disait dans 2 Corinthiens 1:10, c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons, qui nous délivrera encore. Amen. Paul, il avait cette espérance que Dieu était le Dieu des délivrances, puis quoi qu'il allait y arriver, Dieu le délivrerait encore. Et encore, et encore. Hein? Parce qu'on regarde tout ce qui est arrivé, plusieurs fois battu, plusieurs fois laissé mort, dans la pauvreté, dans la maladie, dans toutes sortes de choses, et Dieu l'a toujours délivré. Dieu l'a toujours délivré. Mais ça dépend aussi de notre fidélité. De notre fidélité. Dans cette histoire ici, à Ébénézer, la pierre de secours, ça a été Dieu pour le peuple d'Israël. Ça a été leur pierre de secours, ils ont été délivrés. Ils ont été vraiment, Dieu a rencontré tous leurs besoins. Mais on voit que 400 ans plus tard, le peuple d'Israël était encore revenu à même état, au même problème. Ils étaient retombés dans leurs affaires, ils étaient retombés dans leurs choses. Ça dit ça dans Jérémie 17, 5, 7, ça dit, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, qui détourne son cœur de l'Éternel, mais béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Ils étaient revenus dans leurs affaires. Mes frères et sœurs, quand Dieu fait un œuvre dans nos vies, il veut toujours faire un œuvre. Il veut toujours qu'on s'approche de lui. Mais gardons les yeux sur lui. Gardons les yeux sur lui. Restons dans sa présence. Approchons-nous de lui. Approchons-nous de lui. Hébreux 4, 16 dit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Ébénézer, c'est le peuple d'Israël qui avait été secouru par Dieu. Mais nous, frères et sœurs, approchons-nous avec confiance. Restons attachés au Seigneur. Souvenons-nous des victoires du passé et souvenons-nous que jusqu'ici, nous sommes victorieux. Jusqu'ici, nous sommes victorieux. Et si nous restons attachés, nous pourrons dire comme Paul, « Il m'a délivré, il me délivrera, il me délivrera encore. » Restons attachés et ayons nos yeux sur les souvenirs de notre Ébénézer, nous qui est Jésus-Christ, qui nous a délivrés et qui nous délivrera encore. Israël, ici, avait traversé une période difficile, 20 ans difficile. Mais il n'était pas seul, mais le Seigneur attendait. Notre Dieu est patient. Notre Dieu est patient. Il attendait qu'il se tourne vers lui. Il attendait qu'il se tourne vers lui dans la repentance. Il attendait qu'il revienne à lui. Il attendait qu'il revienne à lui. Et ils sont passés de la défaite à la repentance, à être victorieux dans leur vie. Amen. Je voulais terminer en vous lisant un verset. Le verset d'Ésaïe 26, 4, ça dit, « Confiez-vous à l'Éternel à perpétuité. » Car l'Éternel est le rocher des siècles. Amen. Il est le rocher des siècles. Il est le rocher à laquelle on peut s'appuyer. Il est le rocher qui nous délivre. Il est notre Ébénézer sur lequel on peut s'appuyer. Amen. Pour faire une œuvre dans chacune de nos vies. Je vais juste prier ce matin, puis si les musiciens veulent s'avancer, puis, s'il y en a qui ont besoin ce matin de prière ou qui passent des périodes difficiles ou qui aimeraient qu'on prie ensemble, soyez libres de venir, de vous avancer devant Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu qui est fidèle et il nous délivre encore. Et il veut faire une œuvre dans nos vies encore. Alléluia, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu continues de nous attirer à toi. Tu continues de vouloir faire un œuvre dans nos vies. Parce que toi, tu ne te tannes jamais, Seigneur. Mais tu es attentif. Tes yeux sont tournés vers nous. Et tu attends qu'on vienne vers toi. tu attends qu'on s'avance vers toi, afin que tu puisses nous bénir, afin que tu puisses nous délivrer encore et encore. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.